Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Les icônes, en quoi sont-elles un art à part entière? Dans quelle tradition s'inscrivent-elles? Que viennent-elles représenter? Quelle est la posture de celui qui écrit une icône? Ce sont notamment ces questions autour de l'iconographie que nous allons traiter aujourd'hui. Les icônes, histoire et pratique. Nous découvrons aujourd'hui cette tradition de l'iconographie avec Jean-Philippe Delage. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes iconographe, enseignant et restaurateur d'icônes et notamment vous avez restauré cette icône de la Vierge du Perpétuel Secours à la Basilique Saint-Sernin que nos auditeurs peuvent aller admirer. Une de vos élèves est en ligne avec nous. Bonjour madame, vous êtes Gisèle Paillon.
Oui.
Merci d'être avec
bonjour.
Nous.
Bonjour.
Alors, je vous propose de commencer tout de suite cette émission par une présentation historique des icônes. À quand remontent les premières icônes, Jean-Philippe Delage?
Alors, les premières images démarrent avec le christianisme dans les premiers temps. Mais l'image chrétienne, l'iconographie, va se fixer au VIe siècle, en même temps que la liturgie, que les plus anciennes liturgies. Et cette tradition va perdurer jusqu'à nos jours, je dirais, dans les églises orientales.
D'accord. Et donc cet héritage du christianisme va d'abord commencer en Orient et après en Occident?
C'est ça. Les images vont se fixer dans la partie orientale de l'Empire romain, que l'on appellera plus tard le monde byzantin. Mais c'est une appellation tardive, c'est une appellation du XVIIe siècle. Constantinople, c'est la Rome de l'Orient. Et c'est dans ce milieu-là que va se développer l'iconographie, les canons de l'iconographie chrétienne, et qui vont perdurer jusqu'à nos jours. Et dans l'Occident chrétien, ces canons vont perdurer de manière significative jusqu'au XIVe siècle et font partie aussi de la, je dirais, du langage visuel du monde roman, par exemple.
Ah oui, bien sûr. Et pourquoi vous parlez du XIVe siècle? Il y a une rupture à ce moment-là?
Il y a une rupture progressivement qui va s'opérer par rapport avec le vitrail, avec une autre manière de concevoir l'architecture des églises en Occident. Et là, la fresque va disparaître. Mais les vitraux vont conserver encore pendant longtemps l'iconographie traditionnelle, les canons mis en place au VIe siècle.
Oui, donc finalement cet art a perduré, mais sous d'autres formes.
Exactement, finalement. Exactement. Et même dans la peinture sacrée, dans la peinture encore religieuse du XIXe siècle, les types, je dirais, morphologiques, les attributs des saints sont les mêmes que ceux qui ont été fixé dès le VIe siècle.
Mmh. Est-ce qu'on sait qui a été à l'origine des premières icônes?
Oh, c'est difficile. C'est difficile. C'est certainement dans le monde monastique, parce que c'est véritablement une activité au départ qui est issue de ce monde-là. Et la peinture d'icônes, elle est aussi tout simplement issue de la tradition picturale romaine, grecque. Et voilà, c'est un continuum, d'un point de vue technique aussi.
Oui, on parlera effectivement de la technique. Alors, on a perdu Madame Paillon, mais nous allons la retrouver.
On va la retrouver.
On va continuer avec vous, Jean-Philippe Delage. Qu'est-ce que représente l'icône dans la tradition orientale?
Ah ben, l'icône a une place importante, elle fait partie. C'est un objet liturgique. Avant toute chose, donc elle a un rôle à jouer, elle manifeste la présence dans l'Église, la présence des saints qui sont vénérés, du Christ, de la Vierge, des saints vénérés. Voilà, ils sont présents par l'image.
Et pour la tradition occidentale, c'est pas la même présence.
Alors,
comment on peut comparer?
C'est difficile. Ouais. C'est difficile parce qu'on peut penser que dans les premiers temps, et notamment pendant la période romane, si on s'intéresse à l'art roman, on va voir qu'on a tout un corpus dans le roman catalan, qui est très proche de nous, hein, et d'icônes qui sont positionnées sur l'autel, sur les bordures de l'autel, et ces images sont prévues elles aussi pour pouvoir être manipulées, portées lors de processions. Donc il y a toute une utilisation liturgique des images dans le monde roman qui est que l'on a oublié, mais qui devait exister.
Oui, mais aujourd'hui, une icône dans le monde roman, enfin en tout cas dans notre civilisation occidentale, elle n'a pas la même... valeur, ce n'est pas tout à fait le bon mot, mais elle ne représente pas la présence réelle du Christ ou des saints, par exemple, contrairement au monde oriental.
Non, c'est vrai, mais cela revient dans l'Église. C'est-à-dire qu'à la fois dans les communautés nouvelles, mais pas seulement, on voit que les icônes, je dirais facilement, depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années, reviennent dans l'espace catholique. Beaucoup de catholiques et beaucoup de mes élèves sont issus du monde catholique, apprécient énormément les icônes, les vénèrent. Alors je dirais que pour l'instant, c'est plus peut-être un culte domestique, c'est-à-dire qu'on a les icônes dans le coin prière à la maison, mais pourquoi pas qu'un jour à nouveau, les icônes soient utilisées dans l'espace liturgique, dans les rites latins, pourquoi pas ?
Pourquoi pas, oui. Gisèle Paillon, je pense que nous vous avons retrouvé. Pour vous, ce travail sur les icônes que vous faites, Pourquoi vous vous êtes mise à écrire des icônes ?
Oula !
Oula !
Alors, c'est grâce à une émission que j'ai vue à la télévision sur des moines dans un monastère russe. Alors, c'est pas byzantin, mais c'était russe. Et c'était un reportage sur un moine qui écrivait donc des icônes. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, la beauté, je me suis dit, un jour, j'en ferai. Voilà. Et ça a mis très, très, très longtemps à mûrir. Et ce n'est qu'en 2008 que j'ai commencé ma première icône. Alors, c'était, je pense, j'étais attirée par la beauté d'abord. Et après, après ça fait un petit chemin spirituel et je continue encore dans ce cheminement-là.
Et justement, ce chemin spirituel que vous permet le travail d'icône, qu'est-ce qui vous fait avancer en fait quand vous travaillez une icône ? Qu'est-ce que vous contemplez et qu'est-ce que vous découvrez finalement ?
Je crois que je suis comme beaucoup de personnes de religion catholique, mais non pratiquante. Et ça m'a permis, d'abord je ne connaissais rien à l'icône, donc j'ai appris ce qu'elle signifiait, comment elle était faite, pourquoi il y avait toutes ces étapes, autour de l'icône. Et après, j'ai appris au fur et à mesure aussi les étapes de la vie du Christ et de l'Évangile. Et ça m'a permis... Enfin, je suis retournée à lire la Bible, je suis retournée... c'est un cheminement... pas de pratique, mais de spiritualité.
En tout cas, on entend que le Christ vous prend par la main et vous conduit à le découvrir à travers l'Évangile et à travers les étapes de sa vie.
C'est ça. C'est en plus d'écrire sur une Vierge, sur un Christ, sur... C'est aussi apprendre la vie. Toute cette démarche de qui est le Christ, qui est la Vierge, et c'est une approche que je ne connaissais pas. Comme tous les enfants, on a été au catéchisme, mais c'était une histoire. C'était pas et là, je suis en train de commencer parce que c'est un long cheminement pour quelqu'un qui n'avait jamais Je n'ai jamais pratiqué depuis. Mes parents n'étaient pas pratiquants, donc il fallait aller, il fallait faire la communion. Mais voilà, c'était une obligation. C'était pas. Et au travers de l'icône, je découvre autre chose.
Et cette découverte que vous faites du Christ, des saints, de la Vierge Marie, est-ce que ça vous donne envie justement d'avoir une plus grande proximité avec le Christ, une intimité plus forte?
Oui, mais dans le sens où j'ai découvert la prière, j'ai découvert l'accompagnement. J'ai une amie qui est Clarisse. Que Monsieur Delage connaît, qui est venu avec nous aux icônes pendant quelques temps, et entre elle et les icônes, et on, c'est un cheminement qui se rapproche du Christ, oui, mais du côté spirituel. Pour le moment, je n'ai pas fait la démarche de retourner pratiquer à l'église. Pour le moment, ça me je préfère ce contact direct avec l'icône qui me permet de prier en même temps et d'être concentrée sur le saint et de travailler avec ça.
D'accord.
Pour le moment.
D'accord. Vous parlez souvent, à plusieurs reprises, vous avez utilisé le mot prière. Jean-Philippe Delage, quel chemin spirituel le travail d'icône permet?
Ah. C'est vaste. Mais Gisèle vient de bien l'exprimer. Moi, ce que je souhaite aussi à travers mon enseignement, c'est d'amener mes élèves à une prise de conscience spirituelle. Parce que, bon, pour moi, j'ai une vie avec une pratique religieuse, et je pense que l'icône va amener progressivement, et c'est ce que j'espère, et je l'ai vu à travers beaucoup d'élèves, vers une pratique, vers une vie sacramentelle importante. Par exemple, moi, dans ma démarche, quand je dois peindre des icônes d'église, j'essaye toujours de les peindre dans des périodes favorables pour moi, c'est-à-dire des périodes comme le Grand Carême ou le Carême des Apôtres, où je vais non seulement avoir une pratique du jeûne, de la prière, donc me mettre dans le pas des moines. Et ça, pour moi, c'est un moment important. J'ai terminé notamment pendant le dernier Grand Carême une icône d'un saint récent de l'église roumaine, saint Arsenie de la Prislop, qui est un martyr de l'église roumaine puisqu'il est mort en 1989 pendant la fin de la sinistre période de Ceausescu. C'est donc un martyr martyrs du communisme. Et c'est vrai qu'on rentre totalement, je dirais, en relation avec le saint que l'on va peindre. Je ne le connaissais pas, mais nous avons fait connaissance pendant tout ce carême.
Vous vous êtes apprivoisé.
Complètement, oui. Complètement. Oui, oui. Et c'est toujours une émotion très forte que de fixer le regard. C'est la chose que l'on fait en dernier sur une icône. Et c'est là que se manifeste réellement la présence.
Vous avez parlé de Grand Carême, c'est le terme qu'utilisent les orthodoxes, donc c'est le carême de l'Église catholique. Vous avez parlé aussi du carême des apôtres, juste une petite parenthèse pour préciser de quoi il s'agit.
C'est juste avant Noël.
Ah, c'est juste avant, donc c'est la période de l'Avent.
Voilà, exactement. Voilà.
D'accord, ça s'appelle le carême des apôtres.
Voilà.
Vous avez, on devine qu'à travers finalement le travail que vous faites sur les icônes, il y a une forme d'ascèse.
Oui, il y a une forme d'ascèse. Alors, je ne vais pas me présenter comme un ascète, mais oui, tout à fait. C'est-à-dire que très sincèrement, si je ne suis pas dans un état d'esprit et qui me permette de peindre, je ne peins pas.
Par exemple ?
Je vais faire autre chose. Je vais travailler sur mes planches, je vais faire de la restauration, mais voilà, je dirais, les soucis du quotidien,
les
contrariétés, avoir besoin ou de la confession ou de participer à la communion. Voilà, ça peut être des éléments qui vont retarder mon travail sur une icône.
D'accord. Et vous, Gisèle Paillon, est-ce que vous diriez que l'écriture d'une icône, c'est une forme d'ascèse pour vous ?
D'ascèse, peut-être pas, mais de méditation.
De méditation.
Pour moi, c'est ça me permet de me recentrer et et d'oublier aussi tous les soucis du quotidien. Hein. Ça me permet de m'éloigner. De la maladie, du stress, pendant qu'on écrit une icône, on oublie tout ça. On est obligé de se concentrer sur le saint qu'on est en train de façonner, d'écrire, pour notre relation avec lui.
Donc ça vous procure une forme d'apaisement aussi.
Ah oui, tout à fait.
Et est-ce que vous diriez, comme Jean-Philippe Delage, qu'il y a des jours où vous ne pouvez pas travailler sur une icône si vous êtes contrarié ou s'il y a eu un événement qui vous perturbe ?
Oui, tout à fait. Parce que Jean-Philippe le sait, j'ai passé un an et demi là, avec la maladie et ça m'a permis... J'ai essayé de me tenir à venir une fois par mois voir Jean-Philippe pour travailler sur une icône et justement pour me recentrer sur ce qui était important et pour oublier la maladie et pour passer à autre chose. Voilà, c'est...
D'accord.
C'est difficile à dire.
Non, mais vous l'exprimez très bien. Je vous remercie, Gisèle Paillon. Quand vous priez devant une icône, Jean-Philippe Delage, quand vous priez devant une icône, en quoi est-ce différent de la contemplation d'un tableau ? On imagine un tableau de Fra Angelico, une scène de l'Annonciation, par exemple.
Ah, j'aime énormément la peinture. Mais si vous voulez, l'icône doit vous apaiser, doit vous mettre dans une relation avec le saint, avec la personne du Christ, avec la Vierge. Donc, il vaut mieux éviter toute distraction, toute émotion, tout sentiment. Donc, il est évident que la grande qualité, par exemple, des peintures de la Renaissance, de Raphaël, de Botticelli, et qui citait encore... automatiquement, quand vous êtes en face, vous êtes dans une contemplation, une satisfaction esthétique. Mais ça ne doit pas être celle de la prière. Alors certes, l'icône, on recherche une forme de beauté, mais on recherche avant toute chose une espèce de neutralité, d'apaisement. J'ai beaucoup aimé ce que vient de dire Gisèle, parce que c'est vrai qu'elle a traversé des épreuves, elle est encore un petit peu dedans, mais ça va vite se terminer, et l'icône lui a apporté énormément d'apaisement. Et ça, c'est un des fondements même dans l'orthodoxie, de l'ascèse orthodoxe, c'est l'esychia, la quiétude.
Oui.
Ce besoin de quiétude, de que l'homme soit apaisé pour pouvoir rencontrer Dieu. Et l'icône participe à ça. Et quand vous peignez, on dit souvent, peindre une icône, c'est prier. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on se met hors du temps, on est complètement dans ce que l'on fait, et l'homme est le seul animal créateur, le seul capable de produire de la création, et cette activité est automatiquement apaisante et vous met en relation avec Dieu. Je dirais que cet apaisement est totalement universel. On se rend compte aujourd'hui avec l'art thérapie, avec plein de choses comme ça, que ça nous est donné dès les premiers temps de la création. Mmh. l'homme produit des images très structurées et absolument remarquables depuis près de 40 000 ans. Et à chaque fois pour une relation métaphysique, pour une relation qui le transcende.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et l'icône, je crois, continue ce chemin-là. Sauf que depuis, on a eu la révélation et qu'on sait vers où on va.
Voilà, on reste sur cette parole. Voilà, écrire une icône, c'est prier, hein, ce que vous nous dites, Jean-Philippe Delage. Je vous propose de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons un extrait de l'hymne akatiste interprété par l'ensemble vocal Capella Silvanensis. Et nous nous retrouvons juste après. Nous parlerons un petit peu de la technique des icônes.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Les icônes, histoire, cheminement spirituel et pratique. Nous sommes avec Jean-Philippe Delage, enseignant et iconographe. Et une de ses élèves est avec nous par téléphone, Gisèle Paillon. Nous disions juste avant cette émission combien l'icône demande une assaise et elle procure de l'apaisement, de la quiétude et quel chemin spirituel elle permet de parcourir. Nous allons voir un petit peu pourquoi il y a tant d'étapes pour la réalisation d'une icône. Mais peut-être une question vraiment de béotien. Pourquoi on dit plutôt écrire une icône que peindre une icône, Jean-Philippe Delage?
Alors, on dit ça beaucoup plus dans le monde occidental où très tôt on a relié l'icône à la théologie en images. Donc, théologie, écriture, voilà. Dans le monde grec, on parle de graphos, c'est aussi bien écrire que peindre ou dessiner. Donc là, et d'ailleurs, le terme utilisé pour l'iconographe en grec, c'est agiographe, agiographos. Alors que pour nous, l'agiographe, c'est celui qui va écrire la vie des saints.
Tout à fait.
Alors que dans le monde grec, c'est celui qui dessine les saints.
D'accord.
Voilà.
Gisèle Paillon, quand vous avez appris à écrire des icônes ou à peindre, puisque maintenant on sait qu'on peut dire les deux, est-ce que vous avez été surprise par toutes ces étapes par lesquelles il faut passer?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait, d'autant que la première fois que j'ai eu le contact avec une icône, j'ai fait toutes les étapes, c'est-à-dire qu'on a pris la planche, on a collé le tissu censé représenter le linceul du Christ, on a mis les couches de plâtre, et après on a commencé à dessiner et après à poser les pigments. Donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine si on passe par toutes les étapes.
Et donc ça veut dire qu'il y a combien d'étapes si on les parcourt toutes? Ah. Je me tourne aussi vers Jean-Philippe Delage et je vois compter dans sa tête.
Il y en a beaucoup.
C'est une trentaine, c'est de l'ordre d'une trentaine.
Je dirais, vous avez une première étape qui va être l'enduit sur la planche de bois. Vous avez une deuxième étape qui va être le dessin sur la planche. Vous avez une troisième étape qui va être la dorure à effectuer avant de démarrer la peinture. Ensuite, on va aborder une quatrième étape qui va être ce qu'on appelle les proplasmos, les premières couches de peinture les plus sombres que l'on va mettre à la fois sur l'architecture, s'il y a de l'architecture, le monde naturel, s'il y a des montagnes, si, etc., etc. Et ensuite, on va aborder les vêtements des personnages et en dernier lieu, le visage. Une fois que l'on a mis en place les proplasmes, on en est à la quatrième, cinquième étape, vous allez avoir ensuite trois étapes d'éclairage sur tout ce qui est les vêtements, sur tout ce qui est la nature ou l'architecture. Donc, vous voyez, on est déjà à 5-8 étapes. Et ensuite, quand on va aborder la peinture des visages, des corps, là, vous avez, je dirais encore, une dizaine d'étapes qui vont se succéder jusqu'à la finition qui va être l'écriture. En dernier lieu, on va nommer, parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas.
Ah.
Donc l'icône, automatiquement, là, on va terminer réellement par l'écriture.
Est-ce qu'on peut dire que quand on peint une icône, on commence par les couleurs les plus sombres et on va du plus sombre au plus clair?
Tout à fait. Mais c'est la technique de la peinture à la détrempe à l'œuf, qu'on appelle la tempéra, qui impose ce cheminement. Donc vous avez un premier ton qui va être le plus foncé, et ensuite on va monter à trois reprises vers la lumière en éclairant cette teinte ou en jouant sur des contrastes chromatiques, donc sur des couleurs qui vont donner des valeurs plus claires.
Est-ce que ça a une signification, justement, le fait de passer du plus foncé au plus clair?
Alors, vous voyez, là, on aborde un sujet qui... on a eu tendance, dans les derniers développements sur l'icône au XXe siècle, et surtout, je dirais, dans nos pays occidentaux, à mettre de la théologie partout.
Ah.
C'est-à-dire que le fameux tissu que l'on pose sur la planche...
Oui, Gisèle Paillon parlait du
voilà.
Linceul.
Chez nous, en Occident, on va y mettre de la théologie, on va dire, c'est le linceul du Christ que l'on pose. Ensuite, Non, c'est-à-dire que la peinture sur bois, quand vous avez un support sur bois qui risque de se fissurer, la technique de la détrempe veut que vous mettiez une pièce intermédiaire en tissu qui va faire que l'enduit qui va venir dessus, si le bois se fend, la fente ne va pas suivre dans le... Voilà.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est très joli.
Ouais, bah oui, c'est beau.
C'est très beau.
Oui, c'est beau.
C'est très beau. Et la montée vers la lumière, techniquement, la peinture à la tempéra nous oblige à cette démarche.
D'accord. Voilà. Pourquoi l'écriture d'icônes n'a pas évolué depuis l'Antiquité? Pourquoi c'est toujours les mêmes étapes?
Ah ben parce que d'un point de vue technique, c'est parfaitement abouti. Il y a, souvent, les gens pensent qu'on est passé de la peinture à la tempéra, donc avec le jaune d'œuf comme liant, et mélangé au pigment, qu'on est passé à la peinture à l'huile parce que c'était d'une grande modernité. En fait, il y a aussi la facilité de l'utilisation de la peinture à l'huile. La peinture à tempéra va sécher très rapidement. Ce qui oblige toujours à refaire des aplats. Si vous faites une erreur, remarquez, c'est pratique, vous refaites un aplat, vous repartez pas sur une page blanche, sur quelque chose mais sur une base qui va vous permettre de continuer. La peinture à l'huile, vous avez un séchage qui est beaucoup plus lent, donc qui va faciliter le travail du peintre. D'ailleurs, parfois, l'abondance des couches fait qu'on parle pour la mauvaise peinture de croûte.
Oui, c'est vrai.
Voilà. La peinture à l'huile va permettre aussi la peinture sur des châssis et sur toile. C'est vraiment très léger. Quand vous devez peindre un grand format sur bois, c'est terrible. C'est un assemblage très difficile à réaliser. C'est extrêmement lourd. Ça n'a pas la maniabilité d'une toile sur un chevalet.
Oui, c'est ça.
Donc tout ça facilite le
Ouais.
travail.
Et d'autant plus que quand vous utilisez la technique de la tempéra avec ce jaune d'œuf, vous utilisez des pigments naturels,
Oui.
alors que quand certains utilisent la peinture à l'huile, en fait, les couleurs sont déjà faites. Il y a
Les,
moins de liberté alors.
oui, y a, les peintures sont faites, mais enfin, il y a quand même une gamme qui est très importante. Mais avec peu de pigments, on arrive à avoir des gammes colorées très importantes. Alors, on utilise majoritairement des pigments naturels, c'est vrai, mais on utilise aussi des pigments de synthèse qui apparaissent au XVIIIe siècle, tout simplement parce qu'il est quand même mieux d'utiliser un verre issu du cuivre en pigment de synthèse que d'aller broyer des émeraudes.
Ah oui, c'est
C'est,
vrai,
vous
c'est plus
voyez,
facile.
c'est, voilà, le véritable lapis-lazuli coûtait une fortune. L'outre-mer aujourd'hui vaut moins cher, donc voilà.
Pour vous, Gisèle Payon, s'inscrire dans toutes ces étapes, est-ce que ça ne vous demande pas une forme d'obéissance, une forme d'humilité?
Oh, tout à fait, parce que on est obligé de passer par là. Et en même temps, on voit la transformation. C'est un chemin. C'est difficile, mais c'est un chemin aussi.
Jean-Philippe,
Et
oui.
enfin, pour moi, c'est un besoin aussi de passer par là.
C'est-à-dire? Ah, comment l'expliquer?
Ben, c'est comme si on avance petit à petit et ben vers la spiritualité, on avance aussi dans la connaissance du saint parce que bon on ne connaît pas tout et aussi peut-être une relation avec le saint qu'on va écrire ou qu'on va peindre, hein.
Oui. Jean-Philippe Delage, sur cette question de l'humilité et de s'inscrire finalement dans cette tradition, qu'est-ce que vous diriez?
Oh ben, c'est ce qui est, enfin, pour moi, c'est ce qui est passionnant parce que de par ma formation personnelle, j'ai fait des études d'histoire et d'archéologie. J'ai été tourné toujours vers l'ancien et mettre ses pas, vous savez, dans des techniques anciennes, essayer toujours de s'approcher au maximum des modèles anciens. Moi, je trouve c'est fabuleux. C'est un chemin de liberté, finalement. contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de contraintes, mais moi j'éprouve toujours un grand plaisir à copier mes peintres favoris qui sont des moines grecs, crétois du XVIe siècle ou du XVe siècle. J'ai toujours énormément de fierté à me mettre dans ces pas-là. Voilà. Alors après, l'homme n'est pas une photocopieuse, donc automatiquement, on a une part de nous-mêmes qui ressort toujours dans notre travail, mais il ne faut pas la rechercher systématiquement. Vouloir toucher l'originalité à chaque fois, être dans l'innovation, en matière d'art, c'est pas toujours...
Ça peut être une forme d'orgueil. Hein.
Complètement. C'est une forme d'orgueil. Et l'iconographie, c'est un chemin d'humilité. Moi, j'ai eu souvent des gens qui avaient des pratiques picturales déjà très affirmées, qui pensaient connaître, etc. « Oh, mais je vais faire comme ça. » Je dis « Non, il vaut mieux pas que tu fasses comme ça. » Ils ont fait comme ça. Mais automatiquement, ils vont à l'échec. Ce sont des siècles, voire pour la peinture à tempera. Elle est connue dès l'Égypte antique, donc on est à 3000 ans de pratique. Voilà, on a quand même de bonnes bases. On a quand même de bonnes bases.
Vous avez évoqué, Jean-Philippe Delage, les lettres qui sont inscrites vraiment en toute fin de la peinture des icônes.
Oui.
À quoi elles correspondent, ces lettres ?
Ah ben, elles nomment le saint ou le Christ. Pour le Christ, vous allez toujours trouver, alors les gens ne savent pas toujours ce que c'est, mais vous avez toujours trouvé les lettres grecques de chaque côté du Christ. Isus Christos. Sous forme de contraction. Ce qui va ressembler pour la personne qui ne connaît pas le grec, mais qu'est-ce que ça veut dire ce I et ce C ? C'est Isus, et Christos, c'est un X et un C, donc dans l'alphabet latin. Christos, voilà. Pour la mère de Dieu, c'est Mitera Theou, mère de Dieu. Donc le grec est très souvent conservé, et même quasiment toujours conservé pour le Christ et la Vierge. Dans le monde slave, c'est la même chose. Par contre, après, les saints peuvent être nommés dans la langue vernaculaire, là, en français, en portugais.
Donc, il n'y a pas uniquement la langue grecque qui peut présenter le saint.
Exactement. L'essentiel, c'est de nommer le saint représenté.
D'accord. Et est-ce que, si on revient sur la Vierge Marie ou même sur les icônes du Christ, est-ce qu'il peut y avoir une autre caractéristique qui est nommée, par exemple ?
Oui, tout à fait.
Enfin, je ne sais pas, mère du perpétuel secours, par exemple.
Oui, alors, la mère du perpétuel secours, oui, ça peut s'indiquer, hein, sur les icônes latines, c'est indiqué. Alors, au départ, cette Vierge du perpétuel secours, c'est une Vierge crétoise qui est vénérée à Rome depuis le XIVe siècle. Et on a relancé, c'est le pape de l'époque, dont j'ai oublié le nom, qui a relancé au milieu du XIXe siècle, en gros vers 1860, qui a relancé le culte de cette icône dans l'ensemble de l'Église latine. Mais après, par exemple, moi, c'est le nom de mon atelier, les Vierges Odigitria, elles sont nommées aussi comme étant Vierges Odigitria. Et Leusa, donc les Vierges de tendresse, sont nommées aussi. Dans le monde russe, qui compte peut-être près de 300 Vierges différentes, Vladimir... etc., etc. Donc, à chaque fois, vous aurez Vladimirskaya, Kazanskaya. Vous aurez à chaque fois la Vierge bien nommée, quoi, qu'elle corresponde à son prototype, à l'image de départ.
D'accord. Et quand vous dites Vladimir, ça correspond à c'est une personne en particulier ?
Non, c'est la ville de Vladimir.
Ah, c'est la ville, tout simplement.
De même que Kazan, c'est Kazanskaya, c'est la ville de Kazan.
D'accord. Pour terminer, en quoi vous diriez que l'iconographie est un moyen de rapprochement entre les églises orientales et les églises occidentales ?
Oh, parce que c'est vraiment, je crois, une richesse qui est commune, qui est commune aux deux églises, bon, qui a été un petit peu oubliée du fait de la séparation, mais qui peut revenir. Hein. La religion chrétienne est une jeune religion, hein, à peine 2000 ans, au regard de l'histoire. C'est très, très peu, donc il faut espérer. Et non. Et puis moi, je trouve aussi que dans les ateliers, c'est un lieu de partage œcuménique très important. On n'en parle pas souvent, mais je sais que dans la plupart des ateliers iconographiques, ben, vous avez des gens qui ont une pratique religieuse, qui vont rencontrer des gens qui n'en ont pas. Vous avez des gens qui vont venir du monde orthodoxe, J'ai eu des Coptes dans mes ateliers, j'ai eu des Éthiopiens, j'ai eu donc des chrétiens de diverses églises. Donc c'est à chaque fois passionnant. Les échanges sont à chaque fois passionnants.
Échanges passionnants. Et puis, pour illustrer ce croisement, ce rapprochement entre ces deux églises, ces deux poumons, hein, comme disait le pape Jean-Paul II, il y a cette chapelle à Notre-Dame de Paris dans laquelle il y a maintenant que des icônes.
C'est ça, que des icônes qui ont été... On a demandé à des iconographes de représenter à travers leurs icônes l'ensemble des églises d'Orient qui sont toujours, je dirais, dans le giron catholique, dans le giron de Rome. Voilà. Et je trouve que c'est une bonne initiative.
Oui, bonne initiative, une belle preuve de ce désir d'unité. Merci beaucoup, Jean-Philippe Delage. Ah, un dernier mot.
Oui, je voulais terminer éventuellement parce que j'ai une session qui me tient particulièrement à cœur, qui se déroule chaque année au monastère Saint-Benoît à Encalcate, dans le Tarn, qui est une retraite iconographique, c'est comme ça que j'aime l'appeler, et où notre session d'iconographie se met dans le rythme des heures des frères bénédictins. Donc voilà, ça se déroule du 21 août au 26 août. Il reste encore quelques places, donc si des personnes sont intéressées, comme on prend aussi des débutants, ils seraient les bienvenus.
Donc les informations et inscriptions seront sur votre site audigitria.com.
Ils peuvent me contacter, oui, tout à fait.
D'accord, on le mettra sur le podcast. Merci beaucoup, merci Gisèle Paillon, on vous laisse filer à votre rendez-vous. Merci Jean-Philippe Delage, c'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.